RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Mathieu, on t'aime, Van Der Poel, président. Voilà les messages distribués aux champions néerlandais, petit-fils de Raymond Poulidor depuis quelques années en juillet, tout au long du grand ruban asphalté, vainqueur impérial aujourd'hui à Ussel, au nez, à la barbe d'une équipe Lidl Trek mal organisée. Mathieu Van Der Poel recueille tous les suffrages du peloton RMC. Mais pourquoi on aime tant ce coureur et pourquoi Lidl Trek s'est planté? C'est ce qu'on évoquera avec toute notre équipe dans la première partie de l'After Tour. On reviendra aussi sur la jolie performance du Français Alex Baudin et la difficulté de ce Tour de France qui met les coureurs dans le rouge. C'est l'after, on est à l'heure dans la touffeur.
Précédemment dans l'intégral Tour sur RMC.
Ouais, ça y est, Mats Pedersen qui arrive juste devant moi et qui va aller prendre les 30 points, 25 points pour Binyam Girmay juste derrière, et Jasper Philipsen qui termine 3ème je crois, et donc qui va aller prendre, je ne sais plus, c'est 30, 25 et 19 points il me semble pour Jasper Philipsen.
2,8 km encore d'ascension pour les hommes de tête, le Sucomet juste à côté de ce site de la Fournaise.
Bah, est-ce que Pogacar va et Del Toro vont en laisser aux autres, ou vont-ils encore une fois avoir un gros appétit tout à l'heure et empêcher les baroudeurs et les moelleux de s'imposer tout à l'heure à Ussel? Rien n'est encore décidé dans cet état puisque le groupe maillot jaune Pierre-Yves n'est qu'à 1 minute 15 alors que le groupe de tête passe au col. Enfin, c'est le col, oui, c'est le Sucomet.
Le Sucomet.
C'est pas un col, c'est pas le nom d'un col, c'est le Sucomet.
S'il y a une étape à pas rater, c'est aujourd'hui.
RMC, la flamme rouge.
Ça va se jouer à rien parce que les quatre commencent évidemment à se regarder. Le mur final est devant eux. 900 mètres encore à parcourir. Mathieu Van Der Poel en première place. Tom Pidcock qui est juste derrière. Mathieu Van Der Poel qui a fait signe du coude. Vas-y, prends le relais. Il ne prendra pas le Britannique. Johannessen est en troisième position et Alex Baudin en quatrième. Derrière, ils sont à 15 secondes seulement. Ils vont sûrement fondre sur ce groupe. Il ne va pas falloir se regarder trop, mais ça devrait le faire. 600 mètres à parcourir et Mathieu Van Der Poel, Jérôme, qui est le premier pour l'instant et qui regarde derrière.
C'est pas la meilleure place et surtout personne ne veut le relayer. Attention à ce que ça ne revienne pas de derrière. Pour l'instant, le mieux placé dans les coureurs rapides, c'est Tom Pidcock. Bien sûr, il a pris la roue de Mathieu Van Der Poel. On va voir si ça va être suffisant.
Attention à ce que Mats Pedersen ne déboule pas derrière. Ils sont pas loin derrière les fauves. Et pour l'instant, ça accélère pas. Mathieu Van Der Poel, il garde encore. Et Mats Pedersen, il a démarré. Mats Pedersen, il a commencé son sprint. Si ça bouge pas, si Mathieu Van Der Poel ne décolle pas, il reste 300 mètres, ça va revenir de derrière avec Mats Pedersen. Pidcock ne bouge toujours pas, Johannessen non plus, ils sont gelés. Non, ça y est,
ça accélère.
C'est parti avec Mathieu Van Der Poel qui place son accélération. Johannessen en deuxième, Pidcock en troisième, Baudin en quatrième qui ne pourra pas s'imposer. Il est le plus costaud, Mathieu Van Der Poel, il est champion du monde de toutes les catégories. Van Der Poel vainqueur à Ussel. Mathieu Van Der Poel est champion du monde de cyclocross, il est champion du monde sur route, il est champion du monde de gravel, il est champion du monde de tout et il est champion aujourd'hui. Il s'impose à Ussel.
RMC, l'After Tour.
Toute l'équipe de l'After est réunie à Ussel, au cœur du Limousin, dans son élément, dans le parc naturel régional de Millevaches. Avec nous d'autres drôles de bêtes, nous avons un dauphin, Jérôme Pinault. Bonjour Jérôme.
Bonjour messieurs.
Un isard, Jérôme Coppel, qui est à mes côtés.
Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous.
Tu as peur Christophe? Un renard argenté.
Oui, oui. C'est pas les mille vaches et les bœufs grillés ici, là, pour l'instant ce soir, à Ussel.
Salut Christophe. On est parti donc sur cet after, évidemment consacré tout d'abord à Mathieu Van Der Poel, à cette personnalité, à ce sportif vraiment qui est brillant, qui étincelle, qui donne la lumière encore à ce Tour de France aujourd'hui avec cette superbe victoire. Dans le Limousin, Jérôme Pinault, ça ne pouvait pas en être autrement. Forcément, il y a quelque chose de naturel à ce qu'il s'impose aujourd'hui.
Bah oui, c'était l'étape des Van Der Poel à peine une heure de Saint-Léonard-de-Noblat, où a vieilli, où a grandi et où est enterré son grand-père Raymond Poulidor. Mathieu Van Der Poel avait évidemment un supplément d'âme aujourd'hui. Il avait à cœur de briller. Il l'a montré avec son signe en passant la ligne. Et en plus, l'étape lui convenait parfaitement puisqu'elle était très difficile. On est dans le plateau des mille vaches. Les mille vaches, ça fait de la bouse. Après, on en fait du fumier. Bah, aujourd'hui, c'était un beau tas de fumier. Et Mathieu Van Der Poel est venu à bout de cette étape de très difficile, très rapide, un vrai chantier. Mais qui de mieux que Mathieu Van Der Poel pour gagner une étape ici, tout près de chez Poulidor. Et avec un tel scénario, il nous fallait un grand vainqueur et Mathieu est un grand vainqueur.
Jérôme Coppel, on a malgré tout eu des doutes. Pendant toute cette étape, de toute façon, on a eu des doutes, on ne savait pas, et ça va revenir, ça ne va pas revenir, est-ce que Van Der Poel va démarrer assez tôt, est-ce que Johannessen va le battre? C'est aussi ça qui a fait l'usel, j'irais jusqu'à dire, de cette journée.
Oui, bah exactement, il y a eu une grosse bagarre, on se doutait que cette étape était destinée aux baroudeurs, il y a eu une énorme bagarre, tous les coureurs voulaient être dans l'échappée, une fois que l'échappée est partie, il n'y avait que des costauds, mais finalement l'équipe UAE n'ont pas laissé de champ, et jusqu'à le dernier kilomètre, même on entend dans ton commentaire, dans les 300 derniers mètres, on n'est pas encore sûr que ça va jouer entre les quatre, parce que le peloton n'est pas très loin, parce qu'il y a eu différentes stratégies, on en parlera un peu plus tard, mais en fait, c'est ça qu'on aime sur le Tour de France, c'est des échappées et on n'est pas sûr qu'elles vont aller au bout, il y a du suspense jusqu'à la fin, et rappelez-vous, l'année dernière, Mathieu Van Der Poel avait fait un grand numéro avec Ricard, il s'était fait reprendre à quelques mètres de la ligne d'arrivée, cette fois ça lui a souri, c'était le plus fort, et comme l'a dit Gégé, en plus c'est un beau symbole, puisqu'il n'est pas très loin de chez son grand-père.
Christophe, je reviendrai vers toi dans un instant sur justement qu'est-ce qui te plaît chez ce coureur. Nous, journalistes, des fois, on essaye d'être un peu réservé, de rester objectif, mais des fois...
Pas avec Mathieu.
Ouais, c'est ça. Des fois, on est obligé de craquer un peu. Maria, tu nous as rejoint. Tu es descendu de ta moto après cette étape difficile pour les coureurs, mais aussi pour les journalistes. Coup de chaud pour tout le monde depuis quelques jours. Toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu chéris Mathieu Van Der Poel et pourquoi les gens aiment tant ce coureur ?
Parce qu'il est beau, Pierre-Yves.
C'est vrai qu'on fait souvent le récap des coureurs les plus beaux du peloton avec Jérôme Coppel. C'est vrai qu'il ressort souvent, Mathieu.
Ah, c'est un nouveau jeu, ça. D'accord.
Okay. C'est étonnant de la part de Jérôme, d'ailleurs. Tiens.
Non, mais c'est vrai que, et même pour vous raconter l'année, j'écoutais quand j'ai garé ma moto, enfin c'est pas moi qui l'ai garé, mais quand on a garé la moto, j'écoutais la fin de la course, évidemment, avec tes commentaires, Pierre-Yves. Quand Mathieu Van Der Poel a gagné, moi j'étais trop contente. C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, on l'aime, tout le public l'aime, c'est la troisième fois.
Jérôme s'est levé aussi dans le camion, on peut
c'est
le dire.
C'est vrai?
Oui, oui, mais en plus je l'avais mis en Paris, c'est aussi pour ça.
Ah d'accord, okay, ouais. Monnaie, d'accord.
Okay. Mais oui, c'est déjà la troisième fois de sa carrière qu'il lève les bras sur le Tour, on l'aime, on va dire. Bah, le public l'aime aussi pour sa polyvalence, hein, forcément. 8 fois champion du monde du cyclo-cross, champion du monde sur la route, champion du monde de gravel, 8 victoires sur des monuments, c'est un grand classic man, Mathieu Van Der Poel. On le voit tellement sur tous les terrains et on le voit tellement toute l'année que forcément, bah, à force de le voir briller partout, on l'apprécie pour ça. On l'apprécie forcément aussi côté public français pour ses racines françaises. Sa mère, elle est née dans l'Allier et c'est surtout, on vous le répète assez, vous êtes peut-être pas au courant, mais le petit-fils de Raymond Poulidor. Ah, vous ne saviez pas? C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Voilà, l'éternel second, Poupou, le chouchou du public français de l'époque. Enfin, les fans de cyclisme adoraient Raymond Poulidor. Et donc, forcément, par définition, on adore Mathieu Van Der Poel. On l'aime aussi pour son honnêteté. C'est vrai qu'il est très franc, Mathieu Van Der Poel. Il l'a toujours dit, le Tour de France, il ne l'aime pas. C'est pas la course qu'il préfère. Il sait qu'il va souffrir pendant 21 étapes. Et il préfère faire 21 classiques plutôt que faire 21 étapes, une course où il sait qu'il ne sera jamais maillot jaune. Enfin, il peut être maillot jaune, mais il sait qu'il ne l'emmènera pas à Paris, ce maillot jaune. Donc, ça l'intéresse moins. Et voilà, il est très honnête, Mathieu Van Der Poel. Il a aussi déclaré qu'après son 8e titre de champion du monde de cyclo-cross, que ça pourrait marquer la fin de sa carrière dans la discipline et que sa carrière sur route 2028 pourrait pourquoi pas être une belle date pour lui. Il l'a annoncé avant ce Tour de France-là. Il va devenir papa. Il a déjà 31 ans. Donc voilà, on l'aime un peu pour toutes ces raisons.
Il reste 2 ans, quoi, en gros, de ce que
concrètement, je pense qu'il fera les Jeux Olympiques. Il n'est pas champion olympique, donc il fera les Jeux Olympiques 2028. Peut-être qu'il loupera d'ailleurs le Tour de France 2028 cette année-là, vraiment pour se concentrer sur cet objectif-là. Mais c'est vrai qu'il nous manquera quand on le verra plus sur les classiques Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Milan-San Remo. On adore Mathieu Van Der Poel le voir sur ces classiques-là.
Il lui reste quelques objectifs, même s'il a quasiment tout gagné. On sait qu'il aime le VTT, tu as dit les Jeux Olympiques Maria. Il n'a pas été champion du monde de VTT encore. On se rappelle de cette gamelle sur un championnat du monde. Il lui reste quelques objectifs, mais c'est vrai que quand tu as tout gagné comme lui, c'est dur. Alors le cyclocross, on comprend, 8 fois champion du monde. La route, il a encore quelques objectifs. Mais moi, ça me fait mal de me dire que dans 2 ans, il ne sera plus là. Maria dit qu'il a déjà 31 ans. Alors 31 ans, dans 2 ans, il n'a que 33 ans. Il pourrait encore continuer quand tu...
Donc, arrêté à quel âge, toi ?
Oui, mais moi, attention, j'avais pas son niveau. Moi, je me faisais taper dessus tous les jours. C'est pas pareil. Je tapais pas sur la tête des autres. Tu fuses un petit peu plus vite. Crois-moi, ceux qui arrivent à 20 minutes aujourd'hui, ils sont moins motivés pour continuer, tu vois. Non, mais voilà, c'est un coureur frisson. Moi, j'ai peu de coureurs, en fait, qui me transmettent des émotions dans le vélo. Je sais pas, c'est parce que j'étais un ancien coureur, etc. Mais Tadej Pogacar, par exemple, j'admire ses performances, mais il me transmet pas vraiment d'émotions comme Mathieu Van Der Poel peut le faire, comme Julien Alaphilippe a pu le faire, comme Richard Virenque a pu le faire, par
exemple.
Jérôme Pinot, ouais. Tu m'en transmets maintenant des émotions à partir de 23 heures.
C'est l'essentiel.
J'ai des frissons.
C'est l'essentiel.
Mais voilà, pareil, Jonas Vingegaard, j'aime beaucoup le coureur, mais il ne me transmet rien finalement. Alors qu'avec Mathieu Van Der Poel, même quand il ne gagne pas d'ailleurs, Paris-Roubaix, ce qui lui est arrivé cette année, etc. Bah voilà, il a du charisme et il te transmet quelque chose.
Christophe, ouais. Van Der Poel, leader, j'allais dire.
Mais oui,
c'est la classe.
Mais c'est ça en fait. Ce garçon, on l'a vu grandir. On se souvient de sa venue sur le Tour de France à côté de son grand-père. C'est un petit phénomène, hein, le Mathieu. Il était tout jeune, mais il gagnait déjà toutes les courses chez les gamins. Après ce souvenir en 2021, quand il arrive, son premier Tour de France, il porte le maillot aux couleurs de la formation Mercier de son grand-père. Et il va gagner la deuxième étape du Tour de France ce jour-là.
Et prendre le maillot jaune.
Et prendre le maillot jaune.
N'avait jamais réussi.
Exactement, c'est ça. Le grand-père ne l'avait jamais porté. Et puis, il y a ce côté-là, évidemment, très émotionnel, parce que voilà, c'est plus français des néerlandais. Hein, il est vraiment, quand il gagne, il est vraiment français. Il est complètement français, pas du tout néerlandais. Et puis, moi, j'aime bien ce côté résistant, parce que c'est l'un des rares à résister à la puissance et à la domination de Tadej Pogacar. L'année dernière, quand il gagne Paris-Roubaix, mais on sautait de joie. On était avec Jérôme et Maria, mais c'est tellement beau de le voir gagner, résister, parce que tous les autres aujourd'hui ont abdiqué face à la puissance de Pogacar. Mais lui, c'est le dernier des résistants. C'est bien, parce que dans Limousin, il y a eu beaucoup de résistants pendant la guerre. Eh bien, Mathieu Van Der Poel est le dernier des résistants Limousin.
Entre ici, Mathieu Van Der Poel. Tiens, allez, on l'écoute, Mathieu Van Der Poel.
Oui, je pense que toute la journée, on a dû se battre pour garder notre avance. Mais c'est peut-être aussi bien parce que ça faisait que la journée était encore plus dure que normal. Et je pense à la fin, c'était pas vraiment les tactiques, mais juste les jambes qui décidaient.
Voilà, les jambes qui décidaient, mais la puissance hein, dans ce... Parce que, Jérôme Pinot, on le redit, le peloton était tout prêt. Il finissait à 6 secondes. Donc il a fallu vraiment jouer, c'était tendu quand même. Et on le voyait se retourner hein, d'ailleurs pour jauger un peu peut-être le moment où il allait pouvoir démarrer et pas démarrer trop tôt non plus.
Oui exactement, il a été le premier attaquant de la journée en haut du sprint intermédiaire au bout de 17 km. Le premier qui contre derrière le Pedersen, eh bien c'est Mathieu Van Der Poel. Ils n'ont jamais eu plus d'une minute 40 d'avance au maximum. Dans le dernier grimpeur, ils ont 50 secondes. C'est lui qui recasse ce groupe en attaquant encore une fois pour avoir meilleure cohésion. Il disait que ça ne tournait pas bien à 8. Et dans le final, il joue avec les nerfs et il tient ses nerfs. Il a 28 secondes au kilomètre et il dit ça suffit, ça va nous suffire. Et il a parfaitement géré, il a pris son côté. Il n'avait qu'à tourner la tête à gauche pour savoir comment ça allait se lancer. Il a lancé au dernier moment avec son punch de Crossman. Il a mis tout le monde à deux vélos. Mais c'est vrai qu'il a eu... Il a fait une étape énorme et en plus il a eu beaucoup de cran quoi. On dit souvent il faut prendre le risque de perdre pour gagner, c'est ce qu'il a fait dans le final et il l'a encore une fois réussi parce que quand il tente des choses et qu'il a envie de faire des choses, c'est rare quand il se loupe, Mathieu Van Der Poel.
Qu'est-ce qui te plaît chez lui et est-ce que tu es un peu déjà dans la tristesse de te dire dans 2 ans il ne sera plus là?
C'est triste, il a déjà fait de belles choses, il nous a offert beaucoup de spectacles, comme le dit Jérôme, je suis comme lui, c'est quelqu'un qui nous procure des émotions, comme peut le faire aussi Mats Pedersen, Wout Van Aert, voilà, des coureurs qui nous font vibrer. Carrière, on le sait, Mathieu, il s'est ennuyé. À la fin, il s'ennuie en cyclocross. Il ne veut plus y aller parce qu'il gagne trop facilement. Il lui reste une vraie quête, un vrai objectif. C'est un titre olympique ou un titre de champion du monde en VTT. Ça, il ne l'a pas. Et il a envie certainement de le tenter avant de s'arrêter. Et puis, c'est la nouvelle génération aussi. Ça durera moins longtemps. Ils s'ennuient, ils font beaucoup de sacrifices. Et ils deviennent aussi très riche très vite. Et donc, ils ont envie de s'arrêter et de profiter de ce qu'ils ont gagné. Mathieu aime le golf, Mathieu aime plein de choses, donc il va faire autre chose. Est-ce que ça me rend triste ? Non, il nous a offert des belles choses. Et après, moi, je ne suis pas dans cette émotion, dans cette partition.
Nostalgie.
C'est le petit-fils de Poupou, etc. Non, c'est un très beau coureur. Et s'il n'avait pas été le petit-fils de Poulidor, ça n'aurait rien changé. C'est un magnifique coureur, polyvalent, qui fait du bien au cyclisme.
Mais on l'aime aussi parce que c'est un peu le vélo à l'ancienne, Mathieu Van Der Poel. Tu n'as pas l'impression qu'il a la tête sur son capteur de puissance, etc. Vrai. Tout se professionnalise et lui, c'est le vélo romantique encore. T'attaques, t'y vas, si tu te fais rattraper, c'est pas grave. Et voilà, il tente encore des choses. Wout Van Aert, il est un peu entre les deux. Par exemple, tu prenais l'exemple de Mathieu Van Der Poel à Paris-Roubaix. Cette année, avec Wout Van Aert, c'était pareil. C'est pas qu'ils aient battu Tadej Pogacar. C'est un peu une vision du vélo un peu différente, Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. Et Wout Van Aert, il est un peu entre les deux puisqu'il est dans une équipe qui est très structurée, etc. Donc il est un peu entre les robots, on va dire, et ceux du vélo romantique un peu. Wout Van Aert, il est un peu au milieu. Que Mathieu Van Der Poel, il est dans une équipe qui est une grosse équipe, mais qui a grandi en même temps que lui, en plus de ça. Oui. Donc je trouve que l'image, elle est incroyable. Et lui aurait pu aller 10 fois chez UAE n'importe où pour prendre plus d'argent dans un premier temps. Mais il est attaché à sa, entre guillemets, petite structure, son petit cyclocross, sa vision du vélo à lui. Et c'est ça qui va me manquer plus tard. Parce que est-ce qu'on va en avoir des coureurs comme lui après ?
Les garçons, c'est justement le défi que je vous lance. Il a 31 ans. Est-ce que vous voyez des héritiers à ces Van Der Poel, ces Van Aert, garçons quand même, 21, 22, qui pourraient leur ressembler ? Maria, t'as le
droit de jouer. Tibor Del Grosso, il est un peu comme ça. C'est un jeune coureur qui titille déjà un peu Mathieu sur le cyclocross.
Il ressemble à Mathieu sur le vélo.
Et il ressemble à Mathieu. Et il est un peu multi. Oui, il est dans la même équipe que Mathieu. Mmh. Il est celui qui le titille un peu en cyclocross parfois. Et il va venir sur la route et il aura un peu le même caractère. Il est un peu fou. Il est un peu plus fou, un peu plus décalé Del Grosso. Mais ça reste ce coureur-là qui pourrait demain faire un peu tout, être très fort sur le tour, sur des étapes, et puis aller faire des classiques.
Est-ce qu'il faut aller chercher
Paul Magnier en français. Alors, il n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Il est plus la pure sprinter, mais il aimerait partir dans le type de profil de Mathieu Van Der Poel. C'est son idole. Il s'entraîne d'ailleurs à mieux passer les bosses pour devenir un spécialiste des classiques et devenir un peu un Mathieu Van Der Poel.
Il dégage cette puissance aussi, Paul Magnier, c'est vrai.
Oui, mais je crois qu'il faut pas chercher parce qu'on ne va pas trouver. Ça n'existe pas un autre Mathieu Van Der Poel. Même Tibor Del Grosso, je suis d'accord avec Gégé, c'est peut-être celui qui s'en rapproche le plus, mais il aura ni son caractère, peut-être pas la même force, etc. Pas le même état d'esprit, pas le même. Parce que Mathieu, malgré lui, c'est un showman. Mais ce n'est pas un showman pour faire le show, pour faire le spectacle. C'est un showman pour gagner. Mais toutes ses victoires, quasiment, il se passe un truc quand il gagne. C'est, voilà, le show est malgré
même
lui.
Quand
en fait.
Perd, même quand même il perd, tu le rappelais tout à l'heure, l'année dernière.
Donc je crois, et en plus, moi, je n'aime pas du tout ce truc. Le prochain Mathieu Van Der Poel, ça ne sera pas le prochain Mathieu Van Der Poel. Ça sera le prochain Del Grosso. Il fera sa carrière et ça sera Del Grosso. Ça ne sera pas Van Der Poel.
Ce sera peut-être tout simplement son fils. Mais là, il faudra attendre d'en parler. Son fils,
nous, on aura la chance.
Je ne sais pas si ce sera un petit garçon ou une petite fille, mais puisque ça. Sa compagne est enceinte.
Non, mais
je veux dire, vu les gènes de la famille, je peux dire que dans 20 ans, Maria sera encore là. Bon, je ne sais pas, peut-être. Et elle verra sans doute un Van Der Poel une nouvelle fois brillant.
Tu seras plus là, toi, Christophe ?
Bah non, ils m'ont dit que je serais dans la naphtaline.
Ça sentira le sapin. Hein.
Ah ouais, il sera entre le sapin et la naphtaline.
Entre les Landes et le Jura. Il y a aussi ça, c'est vrai qu'il dégage. Enfin, c'est une star, quoi. Il n'y en a pas beaucoup dans ce peloton.
On dit souvent. Les stars dans un sport, il faut qu'elles dépassent le cadre de leur sport. Lui, il va jouer au golf avec LeBron James et Michael Phelps. Déjà, rien que ça te pose le mec, quoi. Il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui dépassent autant le cadre de leur sport. T'as Tadej Pogacar, bien sûr. Prenez l'exemple de Wout Van Aert. Wout Van Aert, c'est une méga star en Belgique, aux Pays-Bas, partout. Mais et je pense qu'il le veut. Hein. Pour le coup, Wout Van Aert, c'est pas trop son truc. Mais il n'a pas, je trouve, dépassé le cadre du sport. Sa mentalité n'est pas comme ça. Mathieu Van Der Poel, il n'est pas bling-bling du tout. Mais il est fort, il a une belle gueule, tout va bien.
Quand il vient avec sa Lamborghini...
c'est pas lui qui a été toqué à la porte de Lamborghini pour lui dire...
Mais presque, il sort le vélo de la Lamborghini.
Justement,
il vole en jet, c'est quand même une star. Il est bling-bling, Jérôme.
Non, il n'est pas bling-bling, mais pas du tout. C'est pas... Ah non, il n'est pas du tout bling-bling. Bling-bling, c'est si c'était Matthews. Lui qui allait payer pour prendre son jet privé, pour montrer qu'il a les moyens de se payer un jet privé. Là, on lui offre tout. Moi, si je suis coureur et qu'on me dit bah, « tu peux voler en jet au lieu de prendre, de faire 2 heures d'avion, tu vas faire 20 minutes de jet », je vais le faire parce que là, on n'en parle pas trop, mais il y a beaucoup de champions qui vont faire des recos, des trucs en hélicoptère notamment. C'est pas d'être bling-bling. Tu vas optimiser ton temps, tu optimises ta récupération, etc., etc. Non, il n'est pas du tout bling-bling. On vient lui donner... Bah, il serait con de dire non. La marque de montre, les jets,
après,
les bagnoles,
ouais, il est dans sa génération. Il est quand même dans l'air du temps. T'as raison, Jérôme. Il est instagrammable, Mathieu Van Der Poel, mais il en fait pas des tonnes. Il est pas Mathieu Vu. Voilà. Par contre, il utilise, bah, évidemment, la belle voiture, le bel avion. Mais ça fait 20 piges qu'il est payé, 15 piges qu'il est payé comme un millionnaire. Évidemment qu'il a eu un rythme de vie à la hauteur de cela. Maintenant, je suis d'accord avec Gégé. Il a pas besoin d'en faire des tonnes pour être une star. Et c'est ce qui fait que Mathieu Van Der Poel est à part des coureurs comme lui dans le peloton. Avant, il y avait Cipollini, par exemple. Il y a eu Peter Sagan. Mais il n'y en a pas beaucoup, des coureurs comme ça. Ils sont peu. Et Mathieu fait partie de ceux-là.
Puisque tu parlais de jet, moi, j'aurais voulu voir un TGV. Aujourd'hui, le TGV Lidl Trek, et on a vu l'Intercité, en fait. Ils se sont plantés, les Lidl Trek. Ils se sont plantés dans leur stratégie. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Jérôme Pinault, tu peux peut-être prendre justement le poste de conducteur de cette Intercité. Qu'est-ce qui s'est passé alors que, franchement, Mats Pedersen était encore dans le groupe maillot jaune avec Tadej Pogacar et pouvait imaginer s'imposer aujourd'hui ici avec son maillot vert?
On a tout le temps, toute l'étape, on a pensé à cela. Et c'est vrai que quand l'échappée est redescendue en dessous les 50 secondes, on s'est dit, bon, il va faire relever ces deux gars devant, ils vont rouler derrière et puis ils vont rouler à 4 et puis ils vont rentrer. Sauf qu'on a dû discuter toute la journée avec les coureurs, leur demander s'ils étaient bien. Ils ont dû dire répondre oui. Et quand Mathieu a attaqué dans la dernière bosse de la journée, bah, il les a largués les deux. Et là, pour le coup, Derek G et Quinn Simons se sont retrouvés un peu comme des couillons, hein, parce qu'ils avaient dit à leur DS qu'il était bien. Et finalement, quand Mathieu attaque, il ne peut pas y aller. Et après, bah, c'est panique à bord. Alors déjà, les deux coureurs ne se sont pas relevés. Quinn Simons a insisté pour essayer de rentrer devant, alors qu'une fois que tu as pété dans
les
bosses,
après,
il faut se relever et aller bosser derrière. Elle est là, l'erreur, GG. Et elle est aussi du DS. Hein. Tu t'arrêtes et tu attends le groupe derrière. Terminé. Tu n'insistes pas. Et puis en plus, derrière, elle a été l'erreur de pas dire à Skelmose aussi va passer un Harley, va rouler avec les gars, tu vas aider Ayuso dans 3 jours, demain c'est repos, tu vas aller passer 4 relais, 5 relais dans les 20 derniers kilomètres, c'est pas ce qui va te cramer. Ça a été complètement raté, la tactique, pour la fin de la course, parce qu'avant ils ont été exceptionnels, ils avaient 4 devant, 2 devant, 4 derrière, mais par contre dans le final ils ont fait n'importe quoi.
Il manquait Skoyens et Vacek, qui, de façon assez surprenante, a
été lâché assez rapidement. Il a passé une sale journée.
Ouais, alors ils avaient beaucoup travaillé pour le premier sprint intermédiaire, là, au bout de 14 km. Bon, déjà, d'une manière générale, depuis quelques années, Lidl Trek court toujours très, très bien. On a, vers fois, c'était du tableau noir, c'était parfait. Donc, voilà, ça peut arriver, même au meilleur, de se trouer à un moment donné. Je pense que c'est cette dernière difficulté, là, à 24 km de l'arrivée, qui les a mis un peu dedans. Parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas tranché dans la voiture pour dire, OK, on joue tout sur Mats Pedersen ou on joue à l'avant avec Quinn Simons ou Derek G. Donc, ils sont restés là en se disant, on va attendre les 24, enfin, le passage à la dernière difficulté pour voir vraiment la décision qu'on prend. Et là, c'est là où ça me pose encore plus de problèmes. Je suis pas sûr que ça vienne des DS, mais à un moment, tes coureurs cyclistes, t'as les jambes ou tu les as pas, et t'as une situation de course. Je m'appelle Skelmose, je suis dans le final, je suis à 9 minutes au classement général, je vais pas monter sur le podium, je m'appelle Quinn Simons, je suis intercalé entre le groupe Van Der Poel, etc. Même si je rentre, avec l'effort que je vais faire, j'ai peu de chances de battre Van Der Poel au sprint. À un moment, c'est toi aussi, en tant que coureur, qui va réfléchir et qui va prendre la décision. Quinn Simons, il doit se relever bien avant. C'est peut-être les 6 secondes qui manquent qui sont là. Quand il va insister avec Van Etvelt, ça, c'est de l'énergie perdue pour rien et c'est du temps qui ne passe pas dans le groupe maillot jaune à rouler. Donc, à un moment, c'est aussi aux coureurs, il faut arrêter de tout mettre sur la stratégie des équipes, les DS, etc. À un moment, tu es coureur, tu as du QI vélo, tu ne l'as pas, tu réfléchis, tu es Skelmoseux, tu dis, allez, j'y vais. Ayuso, moi, je suis plutôt d'accord qu'il n'ait pas roulé. Ça, c'est un autre débat, mais même lui, il aurait pu se dire, dire j'y vais à la limite, mais ils réfléchissent plus, t'as l'impression. Alors je veux pas leur tirer dessus parce qu'ils courent très bien et ça aurait pu très bien marcher, la tactique était parfaite, mais à un moment donné c'est aussi au coureur de prendre ses responsabilités par rapport à la situation de course.
Est-ce que le problème c'est pas qu'ils ont trop d'individualité, trop de leaders quelque part. Tu regardes les noms de la formation Lidl Trek, t'as que des champions, t'as que des leaders, des Ayuso, des Derek G, Mats Pedersen, Quinn Simmons, Mathias Kalmose, il n'y a que des stars dans cette équipe. Et quand t'es une star, quand t'as une personnalité, quand t'as de l'ego, est-ce que t'as envie de te mettre au service des uns et des autres? Je ne sais pas.
Et à la tête de cela, Christophe, tu as un Mats Pedersen qui est un gentil. Moi, je vois la tactique aujourd'hui.
De l'équipe, je pense.
À la lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu mets Mark Cavendish à la place de Philipsen, le bus, il rebondit jusqu'au Lioran, quoi. Ils défoncent tous les uns après les autres parce que là, ils ont gâché une occasion énorme pour Mats Pedersen. Vu le sprint qu'il a fait en plus, parce que Ganna était là, ok, mais lui, il a lancé, il restait 300 mètres, il aurait gagné cette étape. Et je te rejoins dans l'argumentation de GG. Christophe, c'est-à-dire que oui, GG, ils auraient dû faire ça, je suis d'accord avec toi, les coureurs doivent prendre leurs décisions, mais c'est tellement des mecs qui pensent perso, les uns autant que les autres dans cette équipe, à part Carlos Verona, que ils se sont dit, tant qu'on ne me le demande pas, je reste là. Et ça, c'est une évidence.
Est-ce que aussi les changements annoncés à la tête de cette équipe, on sait que...
Lucas, il n'est plus là.
Eh oui, voilà, ça bouge en ce moment, donc est-ce que c'est lié aussi à ça, qu'il n'y a, a pas encore tout à fait de patron?
Non, parce que Steven De Jong, dans la voiture, c'est un fin tacticien. Normalement, il se trompe rarement, il fait les bons choix. Maintenant, est-ce qu'il y a du flottement? Est-ce que, par exemple, le directeur sportif, ils ont prévu de le garder ou pas? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est ce que disait GG, c'est que les gars, les coureurs sur le vélo, ils savent que dans cette équipe, s'ils veulent gagner des courses, ils ont besoin des autres. Et aider Mats Pedersen, GG l'a très bien dit, c'est peut-être le plus collectif de cette équipe. Ayuso ou même Skelmose, allez, laissons Ayuso pour le classement général, de ne pas être allé, lui le Danois, pour effectuer 2-3 relais de lui-même pour son pote dans la même équipe, de la même nationalité. Il y a peut-être une espèce de concurrence en interne. En gros, la petite star danoise, c'est l'autre et il ne veut pas l'aider. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas possible d'avoir, excusez-moi de l'expression, chié à la porte comme ça aujourd'hui, quoi.
Je pense que ce qui a fait perdre Lidl Trek aujourd'hui, c'est qu'ils sont trop forts. C'est ça qui les a fait perdre. Parce que s'ils sont un peu moins forts, tu n'as peut-être pas deux mecs à l'avant et tu n'as surtout pas Pedersen dans le groupe maillot jaune. Donc, si tu es un peu moins fort, si tu n'as pas tes mecs à l'avant, tu as toujours Pedersen qui est bien, la stratégie, elle est simple.
C'est
elle
difficile
est limpide.
De faire des choix quand tu as autant de champions.
Parce qu'ils ont dû être dans le bus ce matin, dire « Ok, le sprint intermédiaire, c'est la première priorité, vous me laissez partir personne, Mats va gagner ce sprint-là, il est dur, etc. » Et après, ils ont dû dire « Pedersen, il va passer par la fenêtre. Et on va faire comme si c'est une arrivée d'étape, il va sauter. » Sauf que Pedersen, c'est un besogneux, il n'a pas sauté. Les autres ont fait leur course parce qu'il fallait être dans l'échappée, c'était le deuxième objectif de la journée pour aller gagner l'étape. Et après, ils se sont retrouvés là avec Pedersen, avec les autres devant qui sont bons, qui peuvent peut-être gagner. Et en fait, s'ils avaient été juste un peu moins forts, la stratégie aurait été plus simple finalement. Toi, des fois, d'être trop fort sur le vélo. Moi, c'est pas pour ça que je gagnais pas, mais je vais peut-être y réfléchir d'ailleurs.
Jérôme, il est venu avec son chien à l'émission.
Jérôme, c'est un Pinot, labrador, je crois.
Jérôme Pinot, juste un mot. Moi, je reviens là-dessus. Pourquoi un Juan Ayuso n'est pas capable de rouler, mettre un relais pendant 2 km quand il y a 20 secondes d'écart? On connaît sa puissance, c'est pas ça qui va tuer son classement général.
Mais tu crois qu'il faisait ça même quand il était le lieutenant de Pogacar? Il a jamais fait comme ça, Ayuso. Un mec perso, Ayuso.
Pourquoi
c'est
Egan Bernal, Egan Bernal ne fait pas 2 km, ne met pas un relais pour Pipo Ganna? Parce que quand Pogacar.
Pour faire 10e du général de compagnie.
Oui.
Ayuso, c'est une autre histoire.
C'est cet effort. C'est cet effort-là qui va leur faire perdre une place.
Oui, ça leur fait perdre l'étape. Mais il y avait Pedersen dans le groupe et ils ont peut-être considéré que ça ne servait à rien, que Ganna ne gagnerait pas, donc on garde toutes nos forces. Peut-être que aussi Bernal a dit « je suis pas bien aujourd'hui et je préfère garder mon énergie ». Ayuso, il n'arrivait même pas à rouler pour Pogacar. De lui-même, il ne va pas y aller. Si tu ne lui imposes pas d'aller mettre un relais, il ne va pas y aller. Mais Ayuso, tous les soirs, il a la télé espagnole. Tous les matins, il a la télé espagnole. Et il sort la Kalachnikov à chaque fois. Il désingue tout le monde. Les adversaires, les présents. Il n'y a que lui. C'est la star. C'est lui le meilleur. C'est lui le plus fort. Ce gars-là a un boulard incommensurable, surdimensionné. Et donc, il ne va pas se mettre au service d'un sprinter dans les étapes de plat. Lui, il dit « moi, je peux gagner le tour ». Mais ce qu'il dit, qu'il peut gagner le tour. Bon, là, il a pris une tarte au Tourmalet, mais il disait ça. Donc, lui, il ne va pas y aller. Son DS ne lui demande pas parce qu'il va lui reprocher derrière et ça va mettre une mauvaise ambiance. Donc, statu quo, il n'y va pas et tu perds pour 10 secondes.
Ayuso, ça ne me gêne pas aujourd'hui. Egan Bernal, à voir. Par contre, je ne peux pas croire que Netcompany Ineos joue la 10e place du classement général, qui n'est pas assuré du tout. Egan Bernal, qui est quand même ancien vainqueur du Tour, ce n'est pas non plus assuré qu'il fasse top 10. Je ne veux pas croire qu'une équipe comme eux, avec le budget qu'ils ont, avec les marginal gains, etc., etc., se rabaisse à défendre une 10e place sur la 9e étape du Tour de France. Là, c'est la déchéance absolue, si c'est ça. Je ne peux pas croire que ça soit ça. J'espère qu'ils ont roulé pour
Ghana.
Ghana et pas pour des... Mais dans ce cas-là...
C'est ce qu'a dit Pogacar, lui-même.
Il a dit quoi?
Il a dit les Netcompany Ineos sont venus rouler pour la victoire d'étape. Alors, de Ghana.
Voilà, alors ça, d'accord. Par contre, je ne veux pas croire que ça soit pour la 10e place de Bernal, mais si ce n'est pas pour la 10e place de Bernal, pourquoi Bernal n'est pas venu rouler?
Ben voilà.
C'est quand même... Alors, ce n'est pas le meilleur des rouleurs. Il a été dans champion de Colombie, de chrono, etc. Mais juste prendre un ou deux relais, ça soulage ceux qui roulent vraiment fort comme Kevin Vauclin ou Tobias Foss. Et les 6 secondes, ça peut faire la différence. Mais on ne va pas me dire qu'ils défendent une 10e place maintenant, sachant que je ne suis même pas sûr qu'ils terminent 10e à Paris.
Très hypothétique, évidemment.
Jérôme Pinot.
Bah dans vous connaissez ma situation, donc j'ai pu suivre aussi l'étape avec les radios, la relais radio des équipes. Et pendant l'étape, le directeur sportif de Netcompany a dit « Il va falloir qu'on aille rouler parce que les deux meilleurs classés au classement général sont en train de nous échapper. » Et ça, très tôt dans l'étape. Donc, c'est bien qu'on parlait de classement général et pas de l'étape dans un premier temps. Donc, je pense qu'effectivement, ils ont mis beaucoup pour aller pour Ghana. Mais Johan Essen, notamment, les gênaient dans l'échappée. Et donc, ils ont roulé.
On rappelle juste les classements, parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure, Christophe. Oui. Victoire d'étape, le classement des 10 premiers, et puis classement général.
Alors, la victoire d'étape, donc on l'a rappelé, Mathieu Van Der Poel qui s'impose. Ici, à l'arrivée à Ussel, il s'impose au sprint devant Johan Essen. Tom Pidcock est troisième. Et le Français Alex Baudin, dont on reparlait dans quelques instants, est quatrième. Ils ont réussi à garder 6 secondes d'avance sur le groupe Maillot Jaune qui a été emmené par Filippo Ganna, le coureur italien de Netcompany, Mats Pedersen termine sixième. Et puis la bonne surprise pour Breuillard, le jeune coureur de la formation Total Energy qui était dans ce groupe et qui termine huitième devant Jordan Legat de la même équipe Total Energy. Au classement général, il n'y a évidemment aucun changement hein, puisque Pogacar conserve son avance à l'issue de cette première partie du Tour de France avec 2 minutes 42 d'avance sur Vingegaard et 3 minutes 27 sur Del Toro. Le classement par points, parce que c'est le seul qui a un petit peu bougé. On s'attendait peut-être à ce que Merlier aille chercher les points du sprint intermédiaire. Ça n'a pas été le cas. Il a laissé Pedersen faire le plein de points. Et ce soir, Mats Pedersen, eh bien, même s'il n'a pas remporté l'étape, reprend pas mal d'avance au classement du maillot vert. 268 points devant Guirmay, désormais son dauphin à 223 points. Et Tim Merlier est troisième à 213 points. Les autres classements ne bougent pas. Le meilleur grimpeur, c'est Pogacar. Le meilleur jeune, c'est Del Toro. Et la meilleure équipe, c'est qui ? Lidl Trek, dont
Lidl
on vient de parler.
Ah, bah oui,
ah ouais, ils sont quand même en tête.
Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, Christophe. Il y a un gros changement au classement général. Egan Bernal passe de la 11e place à
la 11e à la 10e.
Ah, c'était le but de l'équipe aujourd'hui, quand même. Donc,
ah oui, c'est vrai, je suis pas descendu jusqu'à 10.
Allez, écoutez, vous avez quelques secondes pour respirer, reprendre un petit peu d'hydratation et on revient dans l'After Tour.
RMC, l'After Tour.
RMC, 19h-20h, l'After Tour,
Pierre-Yves Leroux.
La deuxième partie de l'After Tour, on va s'intéresser à nos petits Français, à Alex Baudin notamment, qui a brillé aujourd'hui, qui vient prendre une quatrième place, qui a vraiment réussi à s'accrocher avec des cadors à l'avant dans cette étape difficile. Mais on commence tout de suite par celui qui est, parmi les Français, premier au classement général. Et c'est Paul Sexas avec Léna Marja qui nous rejoint. Bonsoir Léna.
Bonsoir tout le monde.
Toujours aux premières loges pour suivre cette équipe Décathlon CMA-CGM. comme tout le peloton, Paul Sexa souffre de la chaleur, de la fatigue, et il va rentrer maintenant dans un monde inconnu, celui d'une deuxième semaine de course. Donc forcément, il va y avoir des questions qui vont se poser, mais il a le droit, comme tout le monde, à une journée de repos. Qu'est-ce qui va se passer pour Paul Sexas?
Déjà, ça aussi, c'est une inconnue, une journée de repos. Il n'a jamais eu à gérer ça. Alors, c'est vrai qu'après une semaine de course, tout le monde se pose la question, même dans l'équipe, que va faire Paul? Alors déjà, aucune ouverture presse, ça c'est interdiction.
Alors que c'était prévu.
C'était prévu, effectivement. Alors en tout cas, ils essayaient d'organiser quelque chose, mais c'est vrai que ce matin, ils nous ont annoncé que personne ne viendrait à l'hôtel parce que justement, ils font attention à ces petits virus qui traînent au sein du paddock, notamment. C'est pour ça d'ailleurs que Paul porte un masque tous les matins et tous les soirs quand il est en contact avec le public. Donc demain déjà, pas d'ouverture presse. Donc c'est vrai que toute l'équipe va rester dans un petit cocon entre eux. Maintenant, c'est de savoir est-ce que Paul roulera ou roulera pas. Écoutez Julien Jourdi, son directeur sportif chez Decathlon CMA-CGM.
Oui, c'est une première fois, mais c'est clair qu'on va prêter beaucoup d'attention par rapport à cette journée de repos demain avec l'ensemble du staff, avec son coach Alexandre Paco, avec le médecin Cyril. Voilà, peut-être que demain Paul ne roulera pas, peut-être qu'il aura nécessité de faire 2 heures, peut-être qu'il aura nécessité de faire qu'une heure. Voilà, on va échanger avec le staff ce soir et demain matin au réveil. Voilà, mais c'est clair, c'est toujours des journées particulières où, voilà, surtout quand le lendemain t'es une étape importante, tu peux pas te permettre, comme on dit dans le vélo, d'avoir les deux pieds sur la même pédale ce jour-là. Donc c'est clair qu'il faudra bien analyser les data demain matin au réveil. Puis on verra tranquillement ce qu'on fait au niveau de l'entraînement avec Paul et l'ensemble du groupe.
Et justement, Tige Benot, son coéquipier, disait tout à l'heure qu'il a l'habitude des grands tours et des ces enchaînements-là, qu'il ne fallait pas faire un total repos pour Paul Sexas, effectivement, parce que, vous l'avez entendu, hein, Julien Jourdi l'a dit, le lendemain, mardi, c'est une très très grosse étape où Paul Sexas sera attendu. Donc voilà, il va falloir sûrement qu'il garde un peu le rythme de course, même si tout ça est donc une inconnue pour lui, que ce soit l'étape de repos et l'enchaînement aussi d'une deuxième semaine.
Jérôme Coppel, qu'est-ce qui se passe mardi? C'est quoi le programme? Et qui, selon toi, qu'est-ce qu'il doit faire demain si tu étais son entraîneur?
Si j'étais son entraîneur, j'aurais toutes ces datas, ça serait un peu plus facile. Non, l'étape de mardi, déjà, entre Aurillac et Lyoran à 166 km, ça va ressembler un petit peu à aujourd'hui. Ouais. Un peu plus dur. Le départ est moins costaud qu'aujourd'hui, ça reste vallonné, il n'y a pas de plat non plus. Par contre, on a beaucoup plus de difficultés. Hein. On a 7 difficultés répertoriées. 2 de première catégorie notamment, donc beaucoup plus dur.
Il y a 3800 mètres, GG.
Bien sûr. Et donc 3800 mètres de dénivelé positif. En ce qui concerne la journée de repos, je n'ai pas de conseils à donner à Paul Sexas, mais j'ai rarement vu un coureur qui ne roulait pas du tout être bien le lendemain. Après, c'est dans quelle mesure tu roules, 1 heure, 2 heures, il y en a qui roulent beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que tu fais des efforts ou pas d'efforts, etc. Mais il faut aller tourner les jambes, sinon le corps, il a l'impression que le Tour de France est terminé, même au bout d'une seule journée. Si tu n'as pas chuté, si tu es bien, etc., il faut aller tourner les jambes, même si c'est qu'un coffee ride, tu pars, tu t'arrêtes avec les copains, tu bois un café. Ou d'autres ont besoin, c'était mon cas personnellement, de faire quelques efforts pour garder le rythme. Mais lui, c'est ça l'inconnu de Paul Sexas, c'est qu'il n'a jamais fait une course par étape, tu le disais Léna, avec une journée de repos. Du coup, il ne sait pas comment gérer encore une journée de repos. Il va falloir qu'avec son staff, son entraîneur, il prenne une décision sur une manière de faire sur cette journée-là et voir si ça marche au départ du Lyoran. Parce que pour cette première journée de repos et l'étape vers le Lyoran, si tu n'es pas bien au début, ça va, avec le niveau qu'il a, il va réussir à se refaire. Mais le lendemain de la deuxième journée de repos, c'est le chrono. Là, tu n'as pas le temps de te refaire du tout. Hein. Donc, si ça ne marche pas aujourd'hui, il faudra modifier pour la deuxième journée de repos le, entre guillemets, protocole de journée de repos.
Léna, tu sens de la sérénité dans cette équipe quand tu les vois là, ces derniers jours?
Oui, totalement, parce qu'en plus, on en a profité aujourd'hui pour tirer un bilan auprès de tous les acteurs de l'équipe, et que ce soit Julien Jourdi ou même Nicolas Prodhomme et Tige Benot, les coéquipiers, vraiment, tout le monde dit que on est dans les clous, que tout va bien. Pour l'instant, ils pouvaient pas rêver mieux, entre guillemets. Sixième au général pour Paul. Il y a eu une victoire aussi d'étape pour eux avec Olaf Coy. Donc c'est vrai que pour l'instant, tout le monde est content, tout le monde est serein. Et après, bon, il y a toujours cette petite histoire, voilà, de virus où ils essayent de se protéger. Donc là,
il y a rien chez eux.
Il y a rien chez eux. Alors Aurélien Paré-Peintre a eu des petits problèmes au niveau du ventre. Ils ont trouvé les causes. Maintenant,
Ricciatello, on a des nouvelles de Ricciatello. Il est toujours sur le tour. non,
c'est bon. Julien Jourdi en a parlé tout à l'heure, justement, et qu'il espérait le voir se remettre, en tout cas pour la troisième semaine. Donc,
ouais. Donc c'est pas tout de suite, quoi.
Non,
mais c'est là qui sera le plus important. Hein.
Ouais, exactement, oui, c'est pour ça. Il attend pour cette troisième semaine. Donc on espère effectivement que Mathieu Ricciatello va se remettre. Mais c'est vrai que là, il est arrivé avec beaucoup, beaucoup de retard aujourd'hui.
Jérôme Pinault, juste un dernier mot sur Paul Sexas. C'est la deuxième semaine. Il ne faut pas encore lui mettre une petite pression sur un objectif de classement, même si on sait qu'il n'y en a pas forcément sur ce premier Tour de France. Ce n'est pas là que ça va se jouer encore. Ça sera sur la troisième semaine.
Ce sera sur la troisième semaine, mais il ne faut pas passer au travers de la deuxième. Il y a des parcours difficiles sur cette deuxième. Il faut qu'il reste concentré, il faut qu'il court très habilement, il faut qu'il soit malin, il ne faut pas qu'il en mette partout sur la route non plus et en dehors des étapes. Le Lioran, c'est une étape difficile avec le fameux Puy-Marie. Si tu n'es pas bien dans le Puy-Marie, tu prends un ticket. Si tu es bien, tu peux suivre des coups, faire une étape sympa. Mais ça reste quand même une étape de moyenne montagne. C'est beaucoup plus spécifique, le Lioran, que l'étape d'aujourd'hui. On n'aura pas Pedersen pour un sprint là-haut, ça c'est sûr. On n'aura pas Van der Poel vainqueur, parce qu'il faut passer par le Puy-Marie. Donc pour Paul Sexas, il faudra gérer cette journée-là, puis la semaine prochaine. Mais évidemment qu'il faut arriver avec la cartouchière pleine le lendemain de la deuxième journée de repos, avec sa spécialité, le chrono, et puis la dernière semaine dans les Alpes, où là, il ira chercher le classement général final. Mais il faut limiter la casse ces deux premières semaines, rester au contact, et pour se lâcher la dernière.
Bon, voilà pour Paul Sexas. On va surveiller évidemment la journée de mardi pour voir si la journée de lundi a été bien gérée et s'il faut changer, comme tu le disais, Jérôme Coppel, pour la deuxième journée de repos, s'il faut adapter quelque chose. Mais pour l'instant, tout se passe bien.
Il est très jeune. Je pense qu'il n'y aura pas 36 000 trucs à mettre en place. Il est très jeune. Ça repart vite, un jeune moteur. C'est pas comme celui de Christophe, par exemple.
Bien sûr.
Voilà, je ne suis pas sûr de repartir au départ de Rillac. Je ne suis pas sûr de repartir.
C'est pas gagné.
Il y a cœur à serrer.
Il y en a un autre.
Les vieux diesel, ça tient le choc.
Il y en a un autre, ouais. Jérôme Pinault, qui a un jeune moteur et qui a été brillant aujourd'hui. Vraiment, il a été impressionnant. C'est Alex Baudin. Alex Baudin, le coureur de Education First, qui a vraiment montré toutes ses qualités. C'était easy post pour Alex Baudin aujourd'hui. Jérôme Coppel, est-ce qu'il t'a surpris aussi? Parce que quand on voit les garçons avec qui il était, à un moment on s'est dit il va lâcher.
Ben, il m'a un peu surpris. Alors, on connaît ses qualités. On l'a vu au Tara. Il fait une saison vraiment complète. Hein. Alex Baudin, 9e du général de Paris-Nice, 9e du général du Pays Basque, 4e des France, des championnats de France, 6e de la Flèche Wallonne. Bien sûr, on se rappelle de sa victoire sur la première étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes avec le maillot jaune. Mais il avait déjà fait beaucoup d'efforts au début de tour. On avait l'impression, comme les autres, il était déjà devant, mais qu'il était un peu à fond. Et il a réussi à accrocher le bon wagon, à s'accrocher pour aller prendre une belle 4e place. Il progresse d'étape en étape, j'ai l'impression, dans sa manière de courir. Il se plaît dans son équipe. On sent qu'il se plaît sur le vélo. Ouais. Il est heureux. Et ça, sur le Tour de France, sur un Tour de France aussi dur, si t'es pas heureux, on parlait de Lipovitz et Evenepoel, où il y a un peu de la friture sur la ligne. On sait pas trop du côté de Lidl Trek comment c'est. Bah, lui, il se plaît là-bas.
La Carapace, Sean Quinn, ça a l'air d'aller.
C'est une équipe un peu freestyle, hein, Education First.
Toujours, il y a un peu ça.
C'est l'une des...
Mais là aussi, c'est la patte du manager, Jérôme.
Comment?
C'est aussi la patte du manager, là aussi, un peu.
Bah, en fait, Jonathan Vauter, c'est quelqu'un de très ouvert, de très freestyle, de très fun, un peu rock'n'roll. Et c'est un garçon qui laisse énormément de liberté à ses coureurs. Et c'est pour ça qu'on y retrouve les Ben Healy, les Carapaz, les Baudin, les Quinn et autres. Parce que ça attaque de partout. Il y a un sens collectif, évidemment, mais c'est vraiment une équipe qui est tournée vers l'attaque. Et Jonathan incite ses coureurs à prendre des initiatives. Et c'est ce qui plaît beaucoup à Alex Baudin. C'est pour ça qu'il est épanoui dans cette équipe.
Mais ça aurait pu faire un sacré lieutenant pour Paul Sexas. Hein. On rappelle qu'il a été coureur de l'équipe de Paul Sexas avant de partir chez IF.
Hein, il est passé professionnel d'abord, après avoir été formé à Chambéry. Il est de 2001, hein, c'est un jeune coureur encore, et il est passé chez Chambéry. Et il a signé professionnel chez Tudor en 2022. Ensuite, il a rejoint l'équipe à G2R Citroën à l'époque. Pendant le tour de Giro 2023, il a été déclassé pour avoir utilisé un tramadol qui était, on le rappelle, non pas sur la liste des produits interdits, mais sur la liste des médicaments de l'UCI, avec un produit qui était non dopant,
très utilisé,
mais bon,
à l'époque.
C'était très compliqué et c'était mis sur cette liste en attendant d'avoir des résultats, un peu comme ça a été avec les cétones ensuite. Donc Baudin est retourné, on l'a réintégré dans l'équipe H2R et je pense qu'il ne s'y sentait pas épanoui, je pense qu'il avait envie d'autre chose et je pense que lui-même, il le dit aussi dans certaines interviews, il n'avait pas envie d'être au service d'eux, il avait envie de faire son cyclisme. Il a compris à l'époque de ce contrôle positif ou de ce pseudo-contrôle qu'il n'y avait pas de famille dans le vélo, que tu es là, tu sers, si tu as un problème, on t'écarte. Et ça, ça l'a quelque part renouvelé. C'est une renaissance, sa signature chez IF, parce que du coup, il s'est dit, bon, si c'est ça, d'accord, je vais faire ma route, je vais courir pour moi, parce que pour y recourir les autres, on voit ce que ça donne. Et là, il est complètement épanoui dans cette équipe. Comme l'a dit Gégé, il est en train de faire une saison 2026 de très très haut niveau et il passe des paliers. Alors suite à son interview d'après-course, il reste un ou deux paliers psychologiques à passer, mais il va devenir un très très bon. Il est très solide en tout cas.
On va l'écouter justement et j'espère que tu as gardé quelques arguments parce que tu nous feras un petit carton dans la foulée. On l'écoute, Alex Baudin, après la ligne.
J'aurais regardé les trois qui étaient avec moi, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Et ouais, il n'y avait pas grand chose à faire. Si je commençais à jouer et pas passer, après ça, on allait se faire reprendre. Je pense que dans tous les cas, j'étais battu à la fin. Là, c'est vraiment aux qualités de punch par rapport à eux, j'ai rien à faire. Mais ouais, je suis quand même content de l'échapper à Yobu parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi. Je crois que c'est UAE qui roulait derrière, je sais vraiment pas pourquoi. Donc je suis content qu'on aille au bout.
C'est pas facile de suivre ce qui se passe derrière également. Mais qu'est-ce que je fous là ? C'était les mots d'Alex Baudin après la ligne. Tiens, tu vas nous faire un petit carton après ce jingle, mon cher Jérôme. On a un jingle pour les cartons, c'est génial. Oh là là.
RMC, l'After Tour.
Le carton.
Le carton de GG, il est quelle couleur ce carton, Jérôme ?
Il est vert. Il est vert ce carton, il est vert et il pourrait être rose, la couleur de son maillot. Et il est pour Alex Baudin, on en a beaucoup parlé juste avant. Alex Baudin, qui est lui originaire d'Aberville, je l'ai dit, né en 2001. Le 25 mai, il a été. Comment ?
Non, rien.
Ah, pardon.
Tu as des voix.
Il est né là-bas et il a connu le Tour de France parce qu'il allait voir passer le Tour de France avec son père. Et ça a toujours été ce qui façonne sa carrière. C'est un rêve pour lui. Alex Baudin, il rêve d'une chose dans sa vie, c'est de gagner une étape du Tour de France. Alors pour ça, il a eu un passage et un parcours assez périlleux. D'abord formé à Chambéry, puis passé par Tudor dans une équipe étrangère en Suisse, puis revenu chez AG2R, l'équipe du coin. Et dans ce collectif, il n'y trouve pas sa place jusqu'à un incident, une utilisation d'un médicament qu'il n'a évidemment pas pris par lui-même, hein, on l'a peut-être conseillé. Et du coup, il a eu cette histoire-là et de là, il s'est reconstruit. C'est ce que je disais à l'instant. De là, Alex Baudin, et il a commencé à se dire, bon, faut que je change d'air. Et ce passage chez les Américains lui ont redonné confiance. Il a retrouvé de la liberté pour courir. C'est un attaquant né, mais c'est surtout un super grimpeur. Sa performance d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément sur son terrain privilégié. Son terrain privilégié, c'est la montagne, voire même la haute montagne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Alex Baudin nous montre de très belles choses. Il a un objectif, je vous l'ai dit, dans sa vie, c'est de remporter l'étape du Tour. Mais pourquoi pas aller chercher un maillot à poids ?
Il aurait peut-être pu essayer quelque chose, justement. Alors, c'est pour ça que je modérerais un peu ton carton vert. Il aurait peut-être pu tenter dans le dernier kilomètre quand tout le monde
tenter
se regarde.
Pourquoi ? Tenter au pied de la bosse, il avait les cannes, je pense, explosées. Et surtout, il le dit, j'ai pas de punch. Si ça avait été une arrivée en haut de 4-5 bornes de montée, il aurait peut-être essayé des choses. Mais il n'a pas les qualités de punch qu'ont Johan Essen ou Mathieu Van Der Poel. Il a été aujourd'hui devant. Je pense que cette quatrième place, j'espère qu'on lui conseillera et lui parlera de sa confiance, qu'il doit avoir encore plus confiance en lui, qu'il est l'un des tout meilleurs coureurs de peloton. Parce que cette quatrième place, vous verrez qu'elle lui servira pour le jour où il sera de nouveau en position de gagner une étape du Tour. On l'espère sur ce Tour parce qu'il se dira demain ou après-demain, ah ouais, en fait, quatrième, tout le monde s'en fout. Bah oui, tout le monde s'en fout, quatrième. Ça, c'est sûr. Par contre, il s'est retrouvé dans la position de gagner une étape du Tour et ça, c'est très rare. C'est très rare d'être arrivé, on peut demander à Gégé, combien c'est arrivé de fois pour toi d'arriver pour la gagne dans une étape du Tour ?
je sais pas, deux ou trois fois, je pense.
Voilà. Dans une carrière, moi, j'ai fait 13 Tours de France. Moi, ça m'est arrivé deux fois. Donc, à part les sprints massifs, évidemment, mais quand tu n'es pas sprinter, tu peux pas espérer gagner. Donc, de se mettre dans cette situation, premier cap de passer. Maintenant, il faut arriver à trouver la solution pour gagner l'étape et ça arrivera certainement un jour, je lui souhaite, mais en haute montagne parce que Alex Baudin a failli être un sacrifié du cyclisme français avec son départ à l'étranger. Il est sur la renaissance, il n'a que 25 ans et on peut d'ores et déjà dire que derrière Seixas et Martinez, eh bien, c'est peut-être certainement le 3e meilleur coureur français sur ce Tour de France.
Il nous reste quelques minutes dans l'after et je voudrais que les auditeurs puissent vous poser des questions, messieurs, mais on ne peut pas passer à côté de cette thématique qui suit le Tour de France. C'est quand même cette chaleur. Le peloton, il est rincé, pas par la pluie, mais par la fatigue. Parce que, alors je t'entends rire, Jérôme, mais aucun de vous deux n'a connu un Tour de France comme ça, avec des températures quotidiennes à plus de 30 degrés. Et sur 2003. Le corps, cette addition... Non, on n'était pas... C'était pas ça en 2003. C'était pas autant. Sur des 37, 38 degrés, Jérôme. Tour Down Under, c'est pas pendant trois semaines. Peut-être on va
France 2003, c'était sévère quand même, Pierre-Yves. Rappelle-toi, la route fondait quand même. Hein.
La route fondait, mais ça ne durait pas autant.
Ouais, peut-être, c'était un peu moins long.
Trois semaines comme ça. Donc il y a des effets. Écoutez Quentin Paché à l'arrivée sur la ligne tout à l'heure.
Le fait que ce soit raccourci, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile. Hein. C'est même pire. L'étape a été très intense. Et voilà, il faut manager sa monture. Avec la chaleur, franchement, je conseille à personne de passer une semaine de canicule à faire des étapes du Tour de France au meilleur niveau international de cyclisme. Donc voilà, ça fait partie du sport, ça fait partie du vélo. Si c'était facile, tout le monde le ferait.
Voilà, les mots de Quentin Paché. Alors, on sait qu'il y a forcément de la fatigue avant une première journée de repos. Hein. Tout le monde est un peu abattu, a hâte de se retrouver un peu plus à la cool. Mais ce qui nous inquiète, c'est que la deuxième semaine, au niveau des températures, risque d'être pareil.
Le Tour de France sans cette chaleur, c'est déjà très dur. T'attends la première journée de repos de toute façon avec impatience. Donc bien sûr que c'est dur. En plus, là où on se rend peut-être pas trop compte, c'est que ça les oblige, les coureurs, à faire, ils sont obligés de faire beaucoup plus d'efforts pour descendre à la voiture, prendre des bidons, remonter. Ça, c'est des trucs, s'il fait moins chaud, tu fais pas. Tu prends ton ravito à mi-course, tu descends une ou deux fois à la voiture, c'est tout. Et je parle même pas de la dangerosité d'avoir tous les coureurs qui descendent à la voiture, les directeurs sportifs qui remontent, etc. Donc oui, c'est dur, ça va être très très dur encore parce que c'est pas parti pour se calmer. Quentin Paché disait, je conseille à personne de faire le Tour de France sous cette chaleur. Moi, je conseille de toute façon à personne de faire le Tour de France parce que le sport de haut niveau, d'une manière générale, n'est pas bon pour la santé. Puisque dans tous les sports d'ailleurs, c'est l'extrême. Faire un petit peu de vélo, c'est bien. Faire 30 000 km dans l'année, c'est pas bien. Boire un verre de rouge de temps en temps, c'est bien. Boire trois bouteilles comme Christophe Cessieux tous les jours, c'est pas bien. Ben voilà, c'est toujours les extrêmes vont pas. Mais là, malheureusement, les coureurs, ils n'ont pas le choix. Donc, on va voir les décisions d'ASO dans les semaines à venir. Là où on en a parlé hier, et je rejoins Quentin Paché, il dit on a réduit, c'est très bien. Mais l'étape, elle aurait peut-être été moins dure avec le profil initial, avec les 30 km de plus.
Ce sont les mots d'ailleurs de Tadej Pogacar ce soir, Jérôme Pinault. Quelqu'un a proposé de commencer à 10h, mais pour moi ça ne change rien car on finit en pleine chaleur aujourd'hui. Donc ce dimanche, il faisait bien moins chaud à l'arrivée qu'au départ. Il faudrait donc commencer à 8 ou 9h, voire plus tôt encore. Mais je pense que le corps peut s'adapter à cela aussi, se réveiller à 5h du matin et disputer une étape à 8h. Donc il n'est pas forcément d'accord avec Christian Prudhomme. Et il dit, si j'avais le pouvoir de tout modifier, je changerais tous les calendriers et je n'organiserais pas de course en juillet et en août dans les régions chaudes. Voilà ce que dit aujourd'hui Tadej Pogacar.
Mais on va y arriver.
Si on a deux, trois étés consécutifs à ces températures,
peut-être
c'est
que ça évoluera avec le temps, évidemment. Après, sur le côté changement d'horaire, il le sait aussi, Tadej, que c'est impossible. Il y a des créneaux de calais avec les télévisions, les retransmissions, les plus d'audience de l'après-midi.
Si tu n'as plus de droits télé, comment il va on va
il va prendre 8 millions d'euros par an.
En ce moment, les matchs, ils sont à 23h. Les gens, ils regardent à 23h, 1h du matin.
Mais à 11h du matin ou midi, je ne suis pas sûr.
C'est les vacances.
Non, mais l'histoire du calendrier, c'est aussi une bonne idée. Mais tu fais comment? Tu vas aller dire au Giro, vous êtes là au mois de mai depuis 1000 ans, mais nous, le Tour de France, avec nos gros sabots, on arrive tout dehors et vous allez vous taper le mois de juillet ou septembre. Bah non, septembre, tu peux pas, il y a la Vuelta. Bah comment tu le refais, le calendrier? C'est pas simple non plus, mais va falloir se pencher sur la question.
On est sans doute à un tournant là aussi.
On a réussi à changer les calendriers
à l'époque
du Covid.
Et puis la météo, les garçons, c'est pas... Avoue que je vais l'apprendre. Hein. L'année prochaine, on va peut-être faire le départ en Angleterre. Il va faire 4 degrés de la flotte toute la semaine. Et puis après, arriver en France, oui, il peut aussi faire 10 degrés de la flotte.
On est quand même dans un cycle. Général. Tu te rends compte que les vagues de chaleur arrivent de plus en plus régulièrement et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Hein. Je ne sais pas si tu es climato-sceptique, mais voilà. Quoi,
le climato-sceptique, mais c'est une réalité. Chaud en juillet et d'entendre les coureurs qui disent que les coureurs soient fatigués avec la chaleur. Mais moi je regarde les vainqueurs des étapes, je regarde la course aujourd'hui, ils n'avaient pas l'air d'avoir chaud devant parce qu'ils se sont mis pétard sur pétard. Ouais, et quand tu regardes le nom des vainqueurs, c'est les champions devant, hein. C'est tout. Hein.
Ouais, ils ont envie de gagner. Allez, on a Mathieu, auditeur, qui veut vous poser des questions. Bonsoir Mathieu.
Et bonsoir tout le monde.
Merci d'être dans l'After Tour. Tu as Jérôme Pinault et Jérôme Coppel, si tu veux les cuisiner. Alors, pas trop chaud parce qu'ils
mais
sont un peu grillés.
C'est,
grillés,
pas, c'est pas Mathieu Van Der Poel
non,
qui
pas
passe
Mathieu
à...
Van Der Poel et récup.
Non,
quelle est ta question, Mathieu?
C'est le Mathieu de lundi soir. lundi soir, j'ai eu la chance de participer à l'émission en ayant crainte que UAE écrase tout le tour. On m'a dit non, t'inquiète pas, 3 semaines c'est trop long, le maillot ils vont le laisser. Bon ben oui, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé 24 heures. Maintenant ils l'ont avec 2,45 d'avance. Bon ben je crois que j'avais pas trop tort. Hein. Ils vont tordre le Tour de France. Pogacar va le gagner avec un quart d'heure, 20 minutes, on ne sait pas encore. Par contre, moi aujourd'hui, j'étais sidéré par une chose. C'est veille de jour de repos, donc ça peut jouer. Mais il fait une chaleur insupportable pour le commun des mortels. Au repos à la maison.
Surtout
eux,
pour
ils
un
roulent
belge,
à 40, 45 et ils se sont mis à bloc du début à la fin. C'est impressionnant.
Jérôme Pinault.
Il y a une question là ?
Ils sont en train d'écraser le tour. Et est-ce que tu crois que ça peut changer ou est-ce que finalement c'est vraiment la ligne de conduite assurée pour la deuxième semaine aussi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit ils vont aller chercher l'étape. C'est sûr. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un coureur de la Decathlon CMA-CGM qui est passé à côté de Mauro Gianetti ou un directeur sportif pour le remercier aujourd'hui d'avoir laissé l'étape à une autre équipe.
Ah ouais ? Non, mais évidemment, aujourd'hui, ils ont encore montré qu'ils étaient très forts. Qu'ils allaient dominer ce Tour de France. Maintenant, personne, on a parlé de la chaleur et Tadej Pogacar se plaint de la chaleur et des non-changements d'horaire. Donc, ça veut dire qu'il en souffre et donc il n'est quand même pas à l'abri d'un coup de chaud ou d'un coup de buis. Maintenant, effectivement, on ne peut que constater la supériorité de l'équipe UAE et de ces deux leaders qui sont au-dessus du lot. Mais j'ai envie de te dire, Mathieu, faut voir aussi l'autre côté où aujourd'hui, tu as une super étape, tu as un super spectacle, ça pétarade de partout, on a pris notre pied et t'as un beau vainqueur. Donc voyons les belles choses à côté.
Je suis entièrement d'accord. Hein. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'était une super étape. Mais il y a le contraste entre le fait que les coureurs se plaignent entre guillemets de la chaleur et le fait que finalement ils se sont mis sur le guidon toute la journée, quoi.
Ouais, mais Mathieu, tu sais, c'est un rêve de faire le Tour de France. Et une fois que tu y es, tu peux tout. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est que une fois que le départ est lancé, on voit bien quand Christian Prudhomme agite son drapeau, on a cru un moment que ça allait pas bouger, puis ça a duré 1 km, c'était parti. Il y en a toujours un, il y a 180 coureurs.
Tu sais, Mathieu, et puis après, c'est des animaux hein, que tu lâches. C'est eux, ce qu'ils veulent, c'est passer la ligne d'arrivée en premier, et puis t'es là sur le tour. On sait que le cyclisme a plein de qualités, mais il en a une qu'il a pas, c'est d'être solidaire. Donc même si les coureurs, nous on a connu des fois avec GG où on se plaignait des arrivées un peu tortueuse, trop dangereuse, etc. On essayait bien de se mettre un peu ensemble pour faire remonter les infos. Ça n'a jamais marché. Donc là, ils ne vont pas se mettre d'accord pour dire il fait trop chaud, il faut déplacer les horaires, etc. parce qu'on ne peut pas. Donc une fois que le drapeau de Prudhomme est baissé, c'est la guerre. Ça repart à la castagne. Et finalement, il fait très chaud, mais les étapes sont courues toujours aussi vite. Il y a toujours autant de bagarres parce qu'au final, ce que tu veux, c'est gagner une étape du tour. Et si tu ne veux pas faire ça, si tu ne veux pas faire de vélo, il y en a 150 ou 300 derrière toi qui rêveraient d'être à ta place. Donc si tu commences à te plaindre, même à l'intérieur de ton équipe, l'année prochaine, tu ne seras pas sur le tour.
Mathieu, tu vas quand même regarder l'étape de mardi. Tu as hâte de voir la deuxième semaine, quand même.
Avec très, très grand plaisir. Juste une dernière petite question, parce que lundi, je disais que j'avais peur de UAE qui va écraser tout le tour. On m'a dit que il faut être... Ils sont raisonnés, ils ne vont pas assumer le poids de la course pendant 3 semaines. Ils l'ont repris le lendemain ou le surlendemain, si je ne dis pas de bêtises. vous l'analysez comment, vous, de votre côté? Parce que du coup, finalement, ils l'ont récupéré et puis
oui, mais
je pense que du coup, ils vont écraser tout le monde.
Oui, mais c'est ce qui, au moment où on s'est parlé lundi dernier, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé le maillot. Malheureusement, sur... Alors, tu vas me dire, Tadej Pogacar avec à pas attaquer si loin, etc., pour ne pas reprendre le maillot jaune. Mais ils l'ont laissé en pensant qu'une EX et Thorsten Tren allaient pouvoir le garder un peu plus longtemps que deux étapes. Et ils auraient pu le garder encore peut-être 5-6 jours derrière. Donc, Tadej Pogacar a assommé tout le monde. Thorsten Tren est tombé en plus. Donc, le maillot s'était râpé. Mais c'était bien dans leur idée de laisser le maillot jaune. Maintenant, tu as raison. Au final, quand on fait le bilan maintenant, une semaine après ou sept jours après, eh ben, le maillot est chez UAE et le tour est quasiment plié.
Merci beaucoup Mathieu, c'est la fin de l'After Tour. Merci Jérôme Coppel, merci Jérôme Pinault. Je vous je vous demande pas votre favori pour l'étape de demain. Vous voyez, je suis sympa.
Christophe Cessieux.
Christophe Cessieux, très probablement. Ouais. Le premier
très, très costaud, les jours de repos.
Oh, oui.
Deuxième.
Pour... Deuxième.
Quelqu'un qui a un jour d'avance sur lui quand même.
Ah oui, c'est vrai, il sera après JP. C'est vrai, exactement. Merci les gars, on se retrouve mardi pour la suite de ce Tour de France, pour la suite de l'After. Écoutez bien sûr sur 100% route, la radio digitale, toutes les informations sur le Tour de France. On se retrouve mardi. Ciao.
RMC, l'After Tour.